La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Soyez tous les bienvenus au culte de ce matin. Pour un certain nombre d'entre nous, c'est une joie régulière de venir ici, poussés par le besoin, la curiosité spirituelle, heureux aussi de retrouver des amis, des connaissances. Pour d'autres qui n'ont pas l'habitude, le culte est une chose un peu bizarre où on chante, enfin on chante, on essaie de chanter de drôles de chants très vieux qu'on appelle des cantiques. Et puis il y en a un qui parle beaucoup sans qu'on comprenne toujours ce qu'ils disent, à des gens très patients qui ont l'air d'écouter paisiblement ou qui en profitent pour piquer un petit somme sur des bancs pas très confortables. C'est pas toujours très facile de comprendre ce qui se passe vraiment dans un culte. Et on peut trouver ça très ennuyeux, parce que franchement, il ne s'y passe pas grand-chose. Mais parfois, ça permet quand même de réfléchir, de changer notre regard sur la vie, sur nous-mêmes, sur notre manière de penser, sur notre manière de vivre. Ça peut nous permettre de grandir, d'évoluer, pour vivre de manière un peu plus intelligente. Alors c'est ma prière pour aujourd'hui, très humble, que nous soyons les uns et les autres dans une disposition d'écoute, d'attention mutuelle, afin que nous ressortions de cette heure passée ensemble un peu plus riche que nous y sommes arrivés. Je salue Marcello Giannini, qui nous accompagne ce matin aux grandes orgues de Sainte-Pierre, la musique étant heureusement une respiration entre beaucoup, beaucoup de paroles. Et j'accueille maintenant nos amis étrangers qui nous ont rejoints. Alors ce sont des Japonais, je ne parle pas le japonais, mais je peux m'essayer à quelques mots d'anglais qu'on m'a écrit, il ne faut pas que je me trompe. « Welcome to our friends from Taiwan and Japan. We are happy to receive you and all together naturally. » J'enchaîne après ces quelques mots d'anglais sur une prière de Søren Kierkegaard en français. Je ne vais pas vous la lire en danois, mais je crois que c'est plus simple pour tout le monde. Dieu est présent ici, en ce moment. Toi qui es en tout lieu, quand j'ai médité ce que je dirais et comment je le dirais, tu étais présent. Et quand l'individu a résolu de venir en ta maison, tu étais présent. Mais peut-être cette pensée ne lui était-elle pas clairement présente. Alors bénis donc notre culte, afin que tous, chacun en particulier, nous ressentions à cette heure ta présence et que nous sachions les uns et les autres que nous sommes devant toi. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre premier chant. C'est le cantique numéro 40, les trois strophes. Bonjour. Ce psaume que nous venons de chanter, je vous le lis maintenant dans une traduction contemporaine, celle de Stan Rougier. Comme nous l'aimons, ta maison, ô Dieu de l'univers. Quand elle n'y est pas, mon âme éprouve un manque, une nostalgie de ce lieu où tu nous attends. L'oiseau possède un abri, le moineau construit son nid, il y abrite ses petits. Eh bien, c'est ainsi que je me sens quand je suis dans ta maison, Seigneur des mondes, mon roi et mon Dieu. Heureux celles et ceux qui l'habitent. Heureux celles et ceux qui puisent leur force en toi. Heureux, heureuses les amoureux des chemins qui mènent jusqu'à toi. Traversant une vallée de larmes, ils la changent en pays de sources que la pluie couvre de bénédictions. Dieu du soleil et des étoiles, écoute mon âme, prête l'oreille à son chant. Un seul jour sur le seuil de ta maison m'apporte plus de bonheur que 1000 jours dans la maison de ceux qui t'ignorent. Car toi, tu es mon soleil et mon bouclier, la lumière de ma vie. Une certitude accompagne toute l'existence croyante. Si nous restions plus proches de Dieu, nous nous emporterions mieux, nous vivrions mieux. Et c'est la raison pour laquelle chaque dimanche, dans nos prières, nous en consacrons une à la reconnaissance que si nous étions plus attentifs à Dieu et à sa parole, notre vie s'en trouverait considérablement améliorée. Écoutons d'abord dans le Nouveau Testament, au chapitre 12, quelques mots de l'Épître Paul, de Saint Paul, dans l'Épître aux Romains. « Ne vivez pas comme tout le monde. Laissez-vous transformer et renouveler par la volonté de Dieu. Recherchez le bien, ce qui lui est agréable et parfait. Que votre amour soit fiable. Fuyez le mal, attachez-vous au bien. Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse et persévérant dans la prière. Ne faites pas de mal à ceux qui vous en font, tâchez de les bénir, pas de les maudire. Réjouissez-vous de la joie de ceux qui sont heureux et partagez la peine de ceux qui sont malheureux. Pour autant que cela dépende de vous, vivez en paix avec tous. Et quand vous êtes insultés, ne vous vengez pas par vous-même, mais laissez alors agir la colère de Dieu. En toutes circonstances, ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais soyez vainqueurs du mal par le bien. Nous prions. Par la voix de l'apôtre Paul, Seigneur, tu nous invites au renouvellement de notre intelligence et nous sommes toujours si sûrs de nos habitudes. Nous nous laissons si peu déranger par la nouveauté. Tu nous appelles à exercer notre discernement, à chercher ce qui est bon et juste, et la plupart du temps nous agissons sans nous poser de questions, selon des mécanismes plutôt primaires, qui nous maintiennent dans les prisons que nous nous construisons et dans lesquelles nous finissons par étouffer. Tu nous demandes de combattre le mal par le bien, mais nous nous laissons submerger par nos émotions et nous nous affrontons au lieu de nous confronter. Alors Seigneur, pardonne-nous et ne nous abandonne pas sous prétexte que nous sommes lents. Mets ton esprit en nous pour que nous soyons joyeux dans l'espérance et patients dans la détresse, pour que nous bénissions celles et ceux qui nous entourent, dont nous partageons la vie et croisons le chemin, que nous soyons patients et humains, même avec nos adversaires. Apprends-nous sans cesse à bâtir la paix et à fortifier l'amour, à déraciner la violence qui est en nous, et que ton évangile devienne chaque jour davantage, pour chacune d'entre nous, pour chacun d'entre nous, une règle de vie et un chemin de liberté. Ce pardon que nous sommes appelés à donner pour nous libérer de toute haine et de toute rancœur, pour ouvrir de nouvelles pages et donner une chance à des relations renouvelées. Ce pardon que nous sommes appelés à donner jour après jour, Dieu nous le donne en toute connaissance de cause, chaque fois que nous le lui demandons sincèrement et reconnaissons la nuit que sa lumière révèle en nous. Amen. Nous croyons fermement en un Dieu qui nous pardonne quand nous le lui demandons, un Dieu clément et plein d'amour, pas tatillon, qui ne récrimine pas et qui ne tient pas le compte de nos erreurs sur un grand registre qu'il nous présentera le jour de notre jugement. Il efface les transgressions parce que sa bienveillance humanise sa surveillance. Nous lui chantons notre reconnaissance au cantique 68, les trois strophes.
Nous prions. Seigneur, ta parole est comme le soleil. Le matin, elle souligne l'horizon de ma journée. À midi, elle éclaire mes décisions et mes pensées. Le soir, sa lumière est douce pour dire la paix. La nuit, je garde la mémoire de sa clarté. Au moment où nous ouvrons les pages de l'Écriture, que ta lumière se pose sur notre lecture. Amen. Nous lisons dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, les versets 1 à 12. Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement, garde mes commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux. Sois toujours bon et fidèle. Attache ces qualités à ton cou, écris-les sur ton cœur. Alors, Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors, tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. Mon enfant, ne repousse pas les avertissements du Seigneur. Ne te moque pas de ses reproches. Oui, le Seigneur fait des reproches à la personne qu'il aime, comme un père à son enfant préféré. Et nous poursuivons notre lecture dans l'Évangile de Luc, au chapitre 13, les versets 22 à 27 et le verset 30. Jésus va dans les villes et les villages et il enseigne. Il marche vers Jérusalem. Quelqu'un lui demande : Seigneur, est-ce que Dieu va sauver seulement un petit nombre de gens ? Jésus répond à tous : Faites des efforts pour entrer par la porte étroite. Oui, je vous le dis, beaucoup de gens essayeront d'entrer et ils ne pourront pas. Le moment viendra où le maître de maison se lèvera et il fermera la porte. Vous, vous serez dehors. Vous vous mettrez à frapper à la porte en disant « Maître, ouvre-nous !» Mais il vous répondra « Je ne sais pas qui vous êtes. » Alors vous lui direz « Nous avons mangé et bu avec toi. Tu as enseigné dans les rues de nos villes. » Mais il vous dira encore « Je ne sais pas qui vous êtes. Allez-vous-en au loin de moi. » Vous tous qui faites le mal. Maintenant, il y a des gens qui sont les derniers. Ils seront les premiers. Maintenant, il y a des gens qui sont les premiers. Ils seront dernier. Et nous chantons le chant 24, les strophes 1, 3 et 5.
Qui aime bien, châtie bien. En cette veille de rentrée scolaire, c'est absolument parfait. Surtout en cette fin d'été, quand tous nous sortons plus ou moins exsangues de cette période dite de vacances, où beaucoup d'entre nous ont eu le privilège éreintant entre tous d'avoir nos enfants ou nos petits-enfants une bonne partie du temps sur les bras ou dans les jambes. Et nous sommes donc nombreux, nombreuses, à ressentir aujourd'hui un léger, quoique un peu coupable, soulagement à l'idée que l'heure de la rentrée a bientôt sonné. Pour les Suisses, c'est demain matin. Et voici donc que nous tombons par la grâce du lectionnaire sur un petit manuel de pédagogie biblique résumé par ce fameux proverbe que nous avons tant entendu « Qui aime bien, châtie bien », dont la lecture ce matin a été considérablement édulcorée par la traduction que Mado a choisie et qui dit ceci « Le Seigneur fait des reproches à la personne qu'il aime comme un père à son enfant bien-aimé ». C'est aujourd'hui ainsi que nous traduisons notre traditionnel « qui aime bien, châtie bien ». Mais pour couronner le tout, voici que la lecture de l'Évangile de ce jour, on voit un Jésus décidément très en forme qui s'énerve contre quelqu'un qui lui demande si Dieu va sauver un petit nombre de gens ou tout le monde. Et Jésus lui répond « absolument, absolument, Dieu ne va sauver qu'un petit nombre de gens, et certainement pas toi, donne-t-il l'impression d'ajouter. En tout cas, si tu ne fais pas un peu d'effort, tu risques pas d'être sauvé, car la porte du salut est très étroite. Beaucoup de gens essaieront d'entrer, et ils ne le pourront absolument pas. Et le moment viendra où le maître de maison va fermer la porte et où vous allez rester dehors. Alors Mado, qui a préparé ses lectures et qui s'apprêtait à les expliquer à ses petites filles pour qu'elles ne soient pas trop terrorisées, m'a écrit « Je te laisse expliquer à l'Assemblée, à Jeanne, à Sarah et à Salomé, pourquoi Dieu ferme sa porte à ceux qui n'ont pas fait le bien, lui qui est amour, et pourquoi il châtie ceux qu'il aime. » Alors, ce matin, c'est ce que je vais tâcher de faire, en faisant bien sûr quelques détours, le plus court chemin d'un point à un autre n'étant pas forcément la ligne droite. Cet été, les lecteurs du journal Le Monde ont eu droit à toute une série d'articles très intéressants sur la méditation, ses bienfaits et son succès. Et c'est vrai que la méditation est devenue très à la mode sur le marché spirituel et elle se taille aujourd'hui la part du lion. Il paraît qu'il y a même sur le smartphone des applications qui peuvent vous entraîner dans la méditation si jamais vous sentiez un petit énervement vous parcourir l'échine. Bref, les gens aiment bien aujourd'hui fermer les yeux et faire le vide, aller à la rencontre de leur soi profond et retrouver la paix intérieure quand, à l'extérieur et autour de soi, tout est chaos et tout est furie. Et la méditation fait, paraît-il, un bien fou aux cadres surmenés, aux mères de famille au bord de la crise de nerfs, aux malades dans les hôpitaux, si bien que les plus grandes entreprises du CAC 40, à côté de la salle de fitness aujourd'hui réglementaire, installent non pas une salle de culte, mais une salle de relaxation, une salle de méditation zen, ou aujourd'hui, soyons modernes et parlons le langage d'aujourd'hui, de méditation vers la pleine conscience. Hier, il n'y a pas très longtemps, il fallait atteindre le nirvana. Aujourd'hui, c'est la pleine conscience pour les à moitié réveillés que nous sommes. Lisant ces articles, je songeais au fossé qui nous sépare de ces pratiques qui ont tant de succès aujourd'hui, nous qui faisons exactement l'inverse. Quand on vient au culte, on ne s'isole pas, on retrouve une communauté de gens pas toujours très cool, ni toujours très zen. Loin d'être confortablement installé sur un tapis en position du lotus, on s'assied sur des bancs très inconfortables, et en hiver, en tout cas ici, avec doudoune et bonnet réglementaires. On chante péniblement, plus ou moins, des cantiques que nous sommes de moins en moins nombreux à connaître, debout, et au moment où ceux qui méditent écoutent de la musique planante, et vous allez m'écouter là pendant un bon quart d'heure, sans m'interrompre, quand nos amis qui méditent sont enveloppés de silence. Alors, considérant tout ceci, je ne dis pas que nous sommes exemplaires, ni que nous n'avons pas des efforts à faire pour rendre nos églises plus confortables, nos liturgies plus belles et nos cultes moins verbeux, mais c'est vrai que quand on vient à l'église, on ne vient pas pour se faire plaisir. Et on ne vient pas au culte pour ronronner sous les caresses, ni pour se faire du bien. On vient au culte parce que nous avons besoin d'entendre ce que Dieu a à nous dire. Et il ne nous dit pas toujours des choses très plaisantes à entendre. Il ne prend pas une douce voix bien zen pour nous susurrer à l'oreille « Respirez un grand coup, faites le vide et relaxez-vous ». C'est tout le contraire en fait. La plupart du temps, il nous soumet à la question « Où es-tu? Qu'as-tu fait de ton frère? Comment vis-tu ? » Il nous nous ordonne de faire attention où nous marchons, de arrêter d'écraser les pieds de notre voisin. Avec lui, ce n'est jamais « bonne nuit les petits » et « reposez-vous », mais c'est « réveillez-vous ». Faites attention, faites des efforts. Évitez de faire n'importe quoi de votre vie. Et notre Dieu, c'est vrai, n'est pas très fun. C'est un Dieu grand et redoutable, même le Dieu de l'Évangile, qui, plutôt que de se taire, choisit de nous parler, pas toujours avec une voix de velours, et je me prends à rêver qu'au fond, il doit peut-être nous préférer debout, chantant faux des vieux psaumes, qu'assis dans la position du lotus, à écouter de la musique venue d'une autre planète, les yeux fermés et l'air béat. S'il nous parle parfois durement, ce n'est en tout cas pas parce qu'il nous déteste, mais parce qu'il nous aime. Je ne sais pas comment vous définissez l'amour, mais dans la Bible, c'est certain, aimer, ce n'est pas toujours très romantique. Aimer, ce n'est pas toujours un chemin de rose. Ce n'est pas seulement se supporter les uns les autres, se pardonner les uns aux autres, ce qui nécessite toujours un petit effort quand même. C'est aussi parfois s'opposer les uns aux autres, et d'abord à nos plus proches, nos enfants, bien sûr, avec lesquels nous ne sommes pas toujours d'accord, mais de manière plus générale, toutes les personnes avec lesquelles nous sommes amenés à vivre dans une communauté de vie, qu'elle soit familiale, professionnelle ou sociale. La première fois que nous trouvons dans la Bible le commandement d'amour du prochain, c'est dans l'Ancien Testament, et en le relisant attentivement, on s'aperçoit que ce qui accompagne directement le commandement d'aimer son prochain, c'est l'exhortation à le reprendre, à lui adresser des reproches quand c'est nécessaire. Je vous le lis, c'est au livre du Lévitique, au chapitre 19, c'est le verset 18. « Ne hais pas ton frère, reprends-le, corrige-le pour ne pas lui garder de rancune. Aime ton prochain comme toi-même. » L'aimer, mon prochain, mon enfant, c'est bien sûr tout faire pour qu'il vive, tout faire pour ne pas l'écraser, surtout quand je suis plus puissant que lui. Tout faire pour assurer sa subsistance et ne pas lui porter préjudice. Mais le domaine de l'amour dans la Bible inclut aussi le courage, non pas de récriminer, ni de cancaner, ni de dénigrer, mais de contredire, de reprendre et de reprocher. Le mot « reproche » est d'ailleurs un mot particulièrement intéressant, car il signifie littéralement « se réapprocher ». C'est du latin du XIIe siècle « repropiare ». Repropiare. Reprocher, c'est se rapprocher. Cela peut vouloir dire aussi être capable de mettre sous les yeux, de faire voir ce qui a donné aujourd'hui dans notre français contemporain le mot de « remontrance ». Quand on fait des remontrances, on fait voir à quelqu'un des choses qu'il n'aimerait pas forcément voir lui-même. Eh bien, reprocher, remontrer, cela fait partie de l'amour. C'est une part non négligeable de l'éducation. Il faut pouvoir dire, c'est-à-dire mettre sous les yeux, faire voir ce qui ne va pas, ce qui doit changer, ce qui n'est pas admissible. Or, ce verbe de reprendre, corriger, adresser des reproches est exactement celui que le traducteur de la Bible du début du XXe siècle, Louis II, traduisait par châtier, dans ce fameux proverbe « qui aime bien, châtie bien ». Et nous comprenons bien dès lors que cela ne signifie pas qu'il faille frapper fort ce qu'on aime le plus, mais qu'on puisse, et c'est là la preuve, le signe de notre amour pour eux, leur dire des choses pas forcément agréables à entendre pour leur éducation, pour leur instruction. De même que, quoi qu'il nous en coûte, nous le faisons pour nos enfants, eh bien Dieu le fait aussi pour nous. Et de même que nous ne le faisons pas pour écraser nos enfants, mais pour les élever, Dieu le fait pour nous élever. Pas pour nous faire du tort, mais pour nous faire du bien. Nous ne le faisons pas pour nous, mais pour eux. Et Dieu agit exactement ainsi à notre égard. Il le fait pour notre salut, pour notre vie, pour notre liberté, même pour notre bonheur, pour que nous vivions en hommes et en femmes responsables. Aimer, ce n'est donc pas faire fi des règlements, c'est parfois les rappeler, et les rappeler durement. De même que dans une famille, dans une communauté de vie, si individuellement je ne fais pas d'effort pour comprendre que j'existe à l'intérieur d'un « nous », que nous sommes un groupe et que nos manières de nous parler, d'être attentifs les uns aux autres, de nous comporter les uns à l'égard des autres influencent la vie de tous, eh bien, dans une société, collectivement, nos actes, nos manières de vivre, de consommer, de parler, de nous taire, d'agir ou de ne rien faire, ont des conséquences sur un plan beaucoup plus vaste. Et nous le savons d'autant mieux aujourd'hui que plus personne ne peut ignorer le coût écologique, le coût économique, le coût humain, le coût social de nos manières de vivre. Nos choix de vie impactent, c'est le grand mot aujourd'hui, nos choix de vie impactent l'univers habité. Et bien sûr que nous avons des comptes à rendre, pas seulement à l'heure du jugement, mais chaque jour de notre vie. On ne cesse de nous le rappeler, et de manière de plus en plus ferme et de plus en plus urgente. Ce sont nos enfants maintenant qui nous le rappellent. Quand Jésus dit qu'il faut faire des efforts si on veut être sauvé, c'est exactement ce que nous disent aujourd'hui les climatologues, les économistes, les observateurs de notre monde, qui, compte tenu de notre manière de vivre aujourd'hui, nous prophétisent un avenir très sombre, si nous continuons ainsi. Personne ne vient leur reprocher qu'ils nous avertissent qu'en continuant ainsi, on va payer très cher. Personne. Personne ne vient leur reprocher qu'ils nous avertissent que le fait de nous avertir, ils ne font pas leur travail. Et ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de logique. Parce qu'il y a un moment, en effet, où on paye. Il y a un moment où on passe à la caisse. Et ce jour-là, ce jour où on va passer à la caisse, on ne va pas nous demander si la vie fut belle, et si on en a bien profité. On ne va pas nous demander si on est bien content d'avoir mangé et bu tout notre soûl. On ne va pas nous demander si on est heureux d'en avoir profité jusqu'à l'excès. Ce ne sont pas du tout ces questions-là qui nous seront posées, mais celles que nous posaient les prophètes de jadis, je dis bien les prophètes qui sont, eux, à en croire le récit de l'Évangile, déjà dans le royaume de Dieu. Parce que eux, les prophètes, ont su, leur vie durant, oser une parole contraire qui n'appelait certainement pas leurs contemporains à s'en mettre plein la panse, mais à vivre dans un souci constant d'autrui et de sa vie. Que la porte se ferme délibérément devant ceux qui ont piétiné leur vie durant, l'idée même du salut. C'est-à-dire l'idée que nous avons tous ici une part de responsabilité dans le gouvernement de notre espace et de notre temps, cela ne devrait ni nous impressionner, ni nous attrister. Ce qui devrait nous impressionner et nous réjouir, c'est que la porte, cette porte qui claquera devant le nez des uns qui se croyaient si proches, parce qu'ils ont mangé et bu à la table du Christ, et entendu son enseignement, mais qui n'ont jamais rien fait d'autre qu'écouter, sans jamais agir, eh bien cette porte, cette même porte, s'ouvrira toute grande devant tant d'autres, étrangers et gens du dehors, celles qui viennent de l'est, de l'ouest, du nord et du sud, des quatre coins de l'horizon, donc de la planète entière, cette porte s'ouvrira largement devant les justes de toutes les nations qui auront su, je cite, faire le bien, quelle que soit leur origine, leur confession, leur religion ou leur absence de religion. Et voilà, je pense, où se loge l'amour de Dieu pour le monde et vraiment pour tout le monde. Amen. Et avant de prier, je vous lis ces quelques phrases de Kierkegaard. Père céleste, toi qui te soucies du passereau, du petit oiseau, sans cruellement exiger de lui qu'il soit comme toi, puisqu'au contraire, en ton amour, tu te soucies de lui en te mettant à sa place, en ta paternelle sollicitude, tu te soucies également de nous, les êtres humains. Et si tu exiges de nous, pour te ressembler, plus d'efforts que tu n'en demandes aux passereaux, tu ne l'exiges pas cruellement. Par ta sollicitude paternelle, tu te mets à notre place. Et tu es toi-même celui qui donne la force de s'efforcer. Nous prions. Oui, Dieu notre Père, aujourd'hui encore dans cette Église, nous sommes venus entendre ta parole, cette parole consolatrice et apaisante, mais qui parfois nous bouscule. Et nous bouleverse, qui nous vient contre, qui nous est contraire, qui nous interroge et qui nous met aussi face à nos responsabilités. Tu attends de nous plus et mieux, et tu attends de nous avec patience, avec persévérance et avec amour, sachant que nous sommes capables tout au long de notre vie de grandir, d'avancer, de nous élever. Alors, c'est cette tâche d'éducation, c'est pour ces tâches d'éducation que nous te prions, que nous soyons parents, grands-parents, enfants. Apprends-nous à écouter, apprends-nous à recevoir. Apprends-nous aussi à parler. Apprends-nous à nous contredire quand il est nécessaire de le faire. Avec patience, avec persévérance. Apprends-nous à nous aimer dans la vérité. Apprends-nous à ne pas nous fuir. Apprends-nous à penser que les uns et les autres valons tous mieux que l'image négative que nous pouvons porter des uns et des autres. Apprends-nous à bénir ceux qui nous viennent en adversité. Aujourd'hui, nous te prions aussi pour ce monde pour lequel nous sommes inquiets. Pas pour le monde au fond, mais pour nos manières d'y vivre, nos manières de consommer, nos manières de profiter, de manger, de boire. Rends-nous plus attentifs à ce que nous faisons et à la manière dont nous vivons. Ma dernière prière pour aujourd'hui est pour nos enfants. Nos enfants qui vont bientôt prendre les responsabilités qui sont les nôtres, pour nous tous qui allons nous effacer. Puissions-nous mettre dans leur cœur la confiance, la droiture, la justice et la justesse, pour qu'ils puissent continuer à vivre ici-bas, comme tu l'as voulu, dans la paix, dans la générosité du don et dans l'amour mutuel. Nous t'en prions dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, qui nous a appris à te dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter notre dernier chant. C'est le chant 59. Nous en chanterons les strophes 1, 2, 3 et 5. Et c'est pendant ce chant que votre offrande sera recueillie. Dimanche prochain, c'est Emmanuel Fuchs qui présidera le culte et célébrera deux baptêmes ici même à la cathédrale. Chant 59, strophes 1, 2, 3 et 5. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il fasse rayonner sur vous son visage et qu'il vous donne sa paix. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.